On en parle. Yves Alain Cornu.
Et bienvenue dans cette deuxième partie dont on parle avec l'ouverture de notre guichet, l'arrivée d'un bébé qui n'est pas forcément synonyme d'un épanouissement total pour le couple. C'est une nouvelle vie promise sans accroc. Eh bien non, pas du tout. Au contraire, ça peut être un véritable tsunami émotionnel et identitaire, Marie Tchoumi.
Oui, parce que déjà on passe de 2 à 3. Il faut donc trouver un nouvel équilibre. On peine à se reconnaître, à se retrouver. Il y a aussi parfois un isolement, des visions différentes de l'éducation et pour beaucoup, la fatigue s'installe jusqu'au point où le couple n'arrive plus à se parler sans que ça devienne explosif.
Voilà, que celui qui n'a jamais vécu ça nous jette la première pierre. Et quand les tensions au mari deviennent récurrentes, on parle alors de baby clash.
Oui, avec cette idée que le couple va forcément se séparer, mais c'est pas toujours le cas, même si ça arrive malheureusement. Le baby clash, c'est plutôt cette période de tension vécue dans le couple à la naissance d'un enfant, un terme qui englobe cette crise subie par les jeunes parents qui doivent faire face à de nombreux points de friction. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on se dispute beaucoup que la situation ne peut pas s'améliorer avec le temps. D'ailleurs, on est justement là ce matin pour proposer des pistes. Comment surmonter cette crise sans que tout explose? Est-ce qu'il est possible de se préparer à ce bouleversement? Comment faire pour ne pas s'oublier en tant que couple? Et comment retrouver une certaine complicité quand un petit être demande toute notre attention?
Et je vous rappelle les 3 moyens pour nous joindre durant cette heure de guichet interactif. Le 0800 108 208, numéro gratuit pour poser votre question ou nous raconter votre histoire directement à l'antenne, par email à l'adresse onenparle@rts.ch ou encore par message vocal au 076 206 12 12. Et nous retrouvons nos deux invités, Lisa Hénin, sage-femme conseillère pour le conseil en périnatalité de Profa. Rebonjour.
Oui, bonjour.
Et rebonjour à vous, Valentine Rata, chercheuse au Centre d'études de la famille au CHUV et collaboratrice scientifique à l'Université de Genève. Alors, on va peut-être reprendre où on était resté, parce qu'avant les infos de 9h, on a entendu un premier témoignage d'un couple qui racontait, et notamment ce problème de demander à la famille de l'aide parce qu'on est fatigué, un motif peu accepté par la famille, alors que si c'est parce qu'on a trop de travail, ça passe. Cette notion qu'on entendait aussi, il fallait y penser avant de faire des enfants. Lisa Hénin, vous le disiez, c'est des choses qu'on peut anticiper avant la naissance, un peu voir ce qu'on va pouvoir mettre en place.
Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment précieux d'anticiper quand on peut. Effectivement, c'est de confronter un petit peu son entourage. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur votre soutien, oui ou non? Moi qui suis spécialisée plus pour l'accueil du bébé en tant que sage-femme, les mères, elles ont envie d'être avec leur bébé, elles ont envie de s'en occuper, mais c'est tout ce qui est autour et les partenaires vont être très sollicités dans tout ce qui est gestion autour du ménage, des tâches quotidiennes. Et des fois, les belles-mères ou les grands-mères sont très bienvenues pour aider dans ce quotidien, préparer un repas, enfin vraiment faire des choses très concrètes qui peuvent soulager le quotidien et diminuer cette fatigue qui est forcément là, mais très éprouvante avec un bébé qui a des besoins de soins très fréquents, toutes les 2 ou 3 heures. Si on peut anticiper, discuter avec la famille et surtout l'entourage social. Moi, je trouve aussi intéressant de voir entre mères quel soutien on peut s'apporter malgré tout. Je trouve qu'on a de plus en plus de familles qui s'appuient aussi sur leur réseau de voisinage, de se retrouver avec des personnes qui vivent la même aventure que nous, qui sont dans la même réalité. Alors, effectivement, en quantité, on n'aura peut-être pas... Bon, elles vont pas pouvoir peut-être donner autant de temps, mais dans juste des moments courts où on se sent soutenu, on se sent dans la même aventure, ça va être précieux.
On a reçu le témoignage d'une grand-maman qui nous dit qu'elle a reçu le SMS ce matin de son fils. Le petit est malade. Est-ce que elle pourrait le garder demain? Elle nous dit c'est régulier, normal. Notre fils et sa compagne sont très fatigués par les rhumes incessants des enfants. Ils dorment peu. C'est stressant pour toute la fatigue, pour toute la famille. Eh ben lapsus. Pour toute la fatigue. La fatigue. C'est vraiment l'élément qui revient extrêmement souvent et qui peut être responsable justement de ces crises, de ces disputes. Valentine Rata.
Oui, c'est vrai que il faut se dire que l'accueil d'un enfant, c'est un moment qui est stressant et qui en plus arrive avec un facteur important qui est le manque de sommeil, qui nous prive quelque part un peu de ressources pour faire face à tous ces changements et toutes ces adaptations-là. Et en plus, quand on est fatigué, on a aussi moins l'envie et la possibilité de discuter, en couple notamment. Donc c'est un aspect qui vient stresser en plus les gens et diminuer un peu leurs ressources, à la fois pour prendre du temps pour eux, pour le couple, et puis aussi dans la disponibilité qu'ils vont avoir pour leurs enfants, pour leur vie sociale, qui sont des facteurs aussi protecteurs pour le couple. D'avoir une vie sociale, d'avoir des liens sociaux, d'avoir du temps pour soi, c'est un facteur qui participe à la qualité du couple et qui vient être mis à mal par la fatigue aussi.
Le guichet dont on en parle, 0800 108 208.
Et nous accueillons Stéphanie de Lausanne. Bonjour Stéphanie.
Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bon, moi je vous appelle pour un témoignage plutôt qu'une question. Mm-hmm. Parce que le sujet, il me touche beaucoup. J'ai une fille de 6 ans et un bébé de 1 an. Et le deuxième postpartum a été vraiment très éprouvant. Pour le couple et puis pour nous personnellement et moi spécialement. Et ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que souvent on n'ose pas, parce qu'on se dit c'est pas normal, je devrais assurer, c'est mon bébé, c'est pas mon premier, je dois savoir comment faire, la fatigue je connais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en pouvais plus, j'étais tellement épuisée que j'arrivais plus à m'occuper des enfants. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment sollicité tout le monde. La pédiatre, ma sage-femme, la spécialiste d'allaitement, ma sœur, parce que j'ai pas mes parents, mon compagnon n'a pas ses parents non plus, donc on n'a pas beaucoup d'aide. J'ai cherché l'aide partout, j'ai dit en fait, et j'avais honte de le dire. Je pleurais devant ces personnes tellement j'étais épuisée. Et j'ai toujours été hyper bien accueillie, hyper bien reçue, et tout le monde m'a donné des conseils différents. J'avais une palette de solutions. Et je me suis sentie soutenue. Ces personnes, elles m'appelaient, les sages-femmes, la pédiatre, pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment ça allait. Et en fait, ce premier pas de dire, de se dévoiler, de dire que bah voilà, j'y arrive pas, c'est la cata, j'ai besoin d'aide, il est difficile à faire. Mais après, tous les gens qui sont autour, et ils ont des solutions, ils ont des possibilités, et ils nous lâchent pas en fait. Parce qu'elles savent à quel point c'est difficile. Elles nous disent tout le temps, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas la seule. Et voilà, c'est ça en fait. Je voulais juste dire, ne pas hésiter à demander de l'aide et en parler. Même si on se sent un peu honteuse et que ce n'est pas facile, c'est tellement, tellement important. Parce que ce n'est pas le paradis, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas du bonheur.
On ne doit pas être déçu.
Merci beaucoup. Merci à vous de le rappeler aussi par votre témoignage, Stéphanie, que voilà, que ce n'est pas des cas isolés, que ça arrive, que c'est normal d'une certaine façon. Je me permets de vous poser la question, Stéphanie, puisque le thème du jour, c'est aussi l'impact de tout ça sur le couple. Est-ce que vous, par exemple, cette période difficile, vous vous êtes sentie aussi seule par rapport au couple, ou est-ce que ça vous a renforcé? Comment le couple l'a vécu?
Le premier postpartum a été super dur pour le couple. Le deuxième postpartum, on était mieux armés. On a tenu, mais on s'est fait aider. Hein. On s'est fait aider par une psy de couple. Là aussi, on a demandé de l'aide parce que tout d'un coup, ça faisait ressortir en nous des blessures d'enfance. Ça fait tout ressortir. Et du coup, on a aussi demandé de l'aide à ce sujet parce que sinon, je pense qu'on serait plus. On serait plus ensemble. Mais maintenant, ça va mieux. On a appris à se parler. On se connaît mieux avec le deuxième enfant. Et c'est pas toujours le paradis non plus. Mais on se connaît mieux et on se soutient. On sait mieux comment se soutenir.
Ouais. Merci. Merci infiniment de votre sincérité, Stéphanie. Et puis, on voit qu'à travers ces épreuves, on peut en ressortir aussi renforcé parfois.
Mm-hmm. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. Demander de l'aide, c'est pas facile et le couple peut en pâtir, surtout avec l'arrivée du premier enfant. Est-ce que ça se confirme, ça, Valentine Rata? Ensuite, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour les plus courageux, c'est plus facile. C'est le premier où là, c'est la claque.
Alors, je dirais que le premier, effectivement, est celui qui vient ébranler le plus fortement le couple parental. Après, ce que les études montrent, c'est qu'en fait, cette diminution que quasiment tous les couples vivent de satisfaction relationnelle, donc à quel point ils sont satisfaits de leur relation de couple, elle intervient à chaque gros changement. En fait, le couple est assez sensible aux stresseurs qui viennent ébranler un peu la famille. Et donc, du coup, effectivement, on voit cette chute assez importante de la satisfaction conjugale après la naissance du premier enfant, mais ça a l'air de se répéter aussi peut-être de manière un peu moindre au deuxième, au troisième et au suivant, parce que c'est aussi des moments d'adaptation qui sont peut-être différents. On s'adapte peut-être différemment, les changements sont différents quand c'est le premier que quand c'est le deuxième. Mais il n'empêche que c'est une période d'adaptation pour le couple à chaque fois.
Baby clash, ce terme qui désigne, c'est un peu la suite du baby blues, hein, si on veut bien, pour tout reprendre ses anglicismes, c'est quand le couple souffre de l'adaptation de la venue d'un enfant, Marie-Thémy.
Stéphanie, qui nous a appelé tout à l'heure et qui a demandé de l'aide, les spécialistes autour d'elle lui répétaient, vous n'êtes pas la seule, c'est le lot de beaucoup de couples, donc il semblerait que c'est fréquent. Est-ce que c'est le cas, Valentine Rata? Est-ce que beaucoup de couples traversent une crise plus ou moins violente hein, après la naissance d'un enfant?
Alors effectivement, c'est quelque chose qui a été assez bien documenté dans les recherches à propos de cette transition à la parentalité. Et on sait que 80 à 90% des couples rapportent cette baisse de satisfaction relationnelle au sein du couple. Ils rapportent aussi une hausse des désaccords et des conflits au sein du couple et une baisse de la communication dite positive. Donc toute cette communication qui nous sert normalement d'arme pour réguler les conflits, régler les désaccords, ça diminue avec l'arrivée de l'enfant.
Et puis ça s'arrange avec le temps. 80-90% des couples qui vivent une crise, mais sur le long terme après, ça s'améliore. Alors une note d'espoir, s'il vous plaît.
Oui, alors c'est une phase transitoire vraiment que 80-90% des couples traversent et qui s'améliore si on fait des suivis assez longs. Effectivement, dans les années après la naissance d'un enfant, on se rend compte que au bout de plusieurs années, ces couples qui ont accueilli un enfant finalement retrouvent des niveaux de satisfaction relationnelle similaires à ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas eu d'enfant. Alors de toute façon, avec le temps, cette satisfaction, elle diminue, mais elle diminue de manière plus abrupte chez les parents qui accueillent un enfant pour remonter au bout de quelques temps.
Quelques temps. Il faut attendre quelques années, c'est ça. Lisa Hénin, c'est quelque chose que vous constatez régulièrement, quand même, des couples qui ont des problèmes de communication, parce que c'est surtout à ce niveau-là hein, que le bas blesse.
Alors, disons que la venue d'un enfant, c'est un énorme bouleversement qu'on ne peut pas anticiper fondamentalement. Et on va se découvrir comme mère, on va se découvrir comme père, et on va se découvrir aussi comme parents ensemble. Donc il y a énormément de challenges, des mouvements identitaires vraiment importants. Et il y a peu de temps, on se rend compte combien il y a peu de soutien finalement, combien la société met quand même beaucoup de pression sur les jeunes parents. Et voilà, comment prendre du recul et comment se laisser du temps. Effectivement, ça va être comme la traversée un peu d'un tunnel. Et c'est voilà, comment est-ce qu'on reste solidaire, comment est-ce qu'on arrive à avoir des moments où on arrive à retrouver des ponts de communication qui sont efficaces, où on arrive à gérer cette fatigue, trouver des solutions extérieures. Le témoignage de Stéphanie était très intéressant. On a ce réseau social, primaire, familial, etc., de voisinage peut-être, mais on a aussi un magnifique réseau de professionnels sur lequel on peut s'appuyer, et comme vous le disiez, qui vont pouvoir nous dire, mais ce que vous traversez est normal. Et quel point d'appui on peut vous proposer? On a par exemple les infirmières petite enfance qui sont un peu partout hein, en Suisse, qui sont là pour les enfants de 0 à 4 ans, qui vont bien aussi connaître le réseau et pouvoir réfléchir avec les familles quelles solutions on pourrait mettre en place pour sortir de cette extrême fatigue. Et puis, le soutien au couple, enfin voilà, la démarche de faire d'avoir un soutien avec un thérapeute de couple est une grande démarche, mais on peut déjà avant ça avoir du soutien aussi avec les pères, en parler entre nous. Et puis, moi je suis attentive aussi au soutien pour les hommes, en fait, où ils se sentent pas toujours aussi bien armés et c'est vraiment important qu'ils se préparent à la venue de leur enfant. Beaucoup de la charge mentale et de la charge dans la société repose sur les mères, les futures mères, mais les hommes ont vraiment envie de s'impliquer et je pense qu'ils ont besoin de plus d'outils et la communication ne sera que meilleure dans le couple si chacun trouve sa place et puis qu'il y ait ces espaces quand même pour communiquer.
Lisa Hénin, Valentine Rata, vous êtes avec nous jusqu'à 10h. On écoute un message vocal qui nous a été envoyé par Anna.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Je voulais réagir parce que ce que vous dites sur le baby clash, personnellement, je l'entends constamment. Moi, je suis maman Et je produis aussi le podcast Roman Parenthood, dans lequel je recueille depuis plusieurs années des témoignages sur la parentalité, sur la réalité de la parentalité, du postpartum, du couple, sur la charge mentale. Et ce que je constate qui revient toujours, c'est vraiment l'isolement des parents, mais aussi le manque d'espace pour dire les difficultés qu'on traverse dans le cadre de la parentalité sans être jugé. Donc, merci d'en parler aujourd'hui à la radio parce que c'est exactement ce dont les parents ont besoin. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de la difficulté à devenir parent, notamment dans notre société de la performance et de l'apparence, mais aussi de la violence symbolique que ça peut représenter, que peut représenter l'injonction à être heureux quand on traverse une tempête comme celle de la découverte de la parentalité et de tous les bouleversements que ça apporte.
Merci beaucoup Anna pour ce témoignage qui passe aussi par pour elle un podcast, donc ce besoin de partager, d'être écoutée, et puis pour les personnes qui écoutent ça aussi, de se sentir moins seule peut-être, Valentine Rata.
C'est des aspects qui sont hyper importants, effectivement, de donner une place à ces témoignages, à ces aspects-là, pour venir diminuer un peu le tabou qu'il y a autour de cette parentalité, puisque c'est vrai qu'on entend assez régulièrement des parents qui nous disent « j'ai pas de raison de me plaindre, j'ai un enfant qui est en bonne santé, que j'ai désiré, que j'ai voulu, voilà, c'était un projet qu'on avait ensemble, j'ai pas tellement de raison de me plaindre de mon couple après ». Et cette peur du jugement dans un moment où les parents sont aussi, effectivement, elle a mentionné ce mot « performance », où on doit être performant à peu près partout, dans notre carrière et en tant que parent. Et qui sont, c'est vrai qu'ils sont des facteurs qui sont assez connus aussi pour avoir un impact sur l'épuisement parental. Le fait de vouloir être un parent parfait n'est en général pas possible. Et puis, peut venir renforcer les difficultés qu'on a et l'épuisement qu'on a. Et donc aussi, par ça, la communication au sein du couple et l'alignement qu'on peut avoir l'un et l'autre dans le couple. Donc c'est hyper important de laisser une place pour discuter de ce genre de choses, pour un peu venir enlever ce tabou et dire que c'est normal.
0800 108 208, nous accueillons Amira de Genève. Bonjour Amira.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin. On n'en parle pas assez, alors que la santé mentale des parents, on le sait, ça devient vraiment un véritable enjeu de santé publique. Quand on voit les chiffres, c'est assez flippant. Moi, je suis maman de deux garçons, le premier à 4 ans, le deuxième à 1 an et demi. Je suis arrivée à Genève il y a à peu près 5 ans pour suivre mon conjoint. Et on a voulu ce premier enfant. On est passé par un parcours de PMA, donc ça a été mûrement réfléchi. Mais en fait, on n'était vraiment pas préparés. On a découvert un petit peu ça sur le tas. On s'est retrouvés très seuls, ça a été très dur. J'ai aussi vécu un drame dans ma famille où j'ai perdu mon frère pendant ma grossesse. Donc, il y a eu une grosse dépression postpartum. Forcément, un baby clash intense qui a suivi, parce que ça a été vraiment un gros chamboulement, un vrai tsunami pour nous deux. Mon premier a 4 ans et je suis même pas sûre qu'on soit vraiment sortis de ce baby clash. En tout cas, ça prend du temps, mais voilà, comme vous dites, il faut trouver les bons professionnels pour se faire accompagner. On est vraiment dans cette démarche-là. Et du coup, moi, je voulais aussi vous parler de mon parcours, de ce que j'ai réussi à mettre en place justement pour accompagner ces jeunes parents. Donc, je suis diététicienne, j'ai un master en nutrition. Et pour accompagner une de mes amies qui m'annonçait sa grossesse, justement, j'ai voulu lui offrir des repas. Mais impossible de trouver un service qui soit vraiment adapté. Donc, je l'ai lancé ici à Genève il y a 2 ans, pendant ma deuxième grossesse. Ça a été un vrai challenge. Mais voilà, donc j'ai lancé la Petite Cigogne. C'est vraiment un service de repas pour futurs et jeunes parents qui sont vraiment adressés à eux. L'objectif, c'est de les accompagner avec des repas sains, gourmands, qui soient vraiment pensés en termes de nutrition, parce que la fatigue avec les rythmes saccadés et les nuits courtes, ça c'est une évidence. Mais on peut aussi essayer de soulager un petit peu cette fatigue et cette charge mentale avec les bons nutriments, parce que voilà, on a besoin de cette énergie, de cette matière pour pouvoir récupérer. Et voilà, donc je suis vraiment dans cette démarche de soulager un petit peu le quotidien des parents.
La petite cigogne, c'est joli, ça. C'est vrai que quand on a mis tout le monde au lit, qu'on se lève tôt le lendemain matin, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de commencer à appeler des carottes et se mitonner un petit plat sain. C'est parfois aussi là, hein, dans cet épuisement, on mange moins bien, voire peut-être même on oublie de manger, Lisa Hénin.
Oui, alors c'est vrai que merci pour votre témoignage, hein, c'était hyper intéressant. Je me permets juste de rebondir aussi par rapport au fait où les personnes qui sont dans des parcours de procréation médicalement assistée ont une pression aussi décuplée sur leurs épaules. Le baby clash peut effectivement être encore plus violent dans le sens où, ben, comme s'ils s'autorisaient pas à mal vivre les choses. Et puis la problématique, la dépression postpartum, qui peut toucher autant les femmes que les hommes. Et c'est très douloureux à vivre, c'est très culpabilisant, c'est très difficile d'en parler. Donc le message, c'est aussi vraiment parler de vos émotions, penser à votre santé mentale dans cette période de vie. Chez les pères, elle peut se manifester plus tard. Mais oui, messieurs, vous êtes aussi à risque de faire des dépressions postpartum. Ça va évidemment impacter le couple. Et puis cette initiative, hein, de repas, elle est excellente. Sur le canton de Vaud, on a l'association des super mamans qui se relaye et qui offre aussi ce type de service. Donc oui, merci beaucoup, vous avez raison, la santé globale et la nutrition est très précieuse dans cette période de vie.
Et puis en tant que proche, si on veut pas forcément prendre le bébé et se faire des nuits blanches, on peut aider différemment, notamment avec voilà des petits plats qu'on prépare pour des copains, des copines. C'est déjà ça.
C'est très précieux.
Tout est bon à prendre. Le témoignage de Marlise à Genève. J'ai eu des jumeaux. On oublie un peu les personnes qui ont eu des jumeaux, des triplés, etc. Surtout lorsqu'on n'a pas la famille sur place. On a fait une demande d'aide familiale. Cela m'a permis de m'occuper des autres enfants aînés que j'avais, en plus des jumeaux. Nous avons dû payer pour ça, mais cela a été une aide considérable. Ça et se serrer les coudes avec mon mari. Quand on parle d'aide familiale, vous savez, moi je ne sais pas.
Alors oui, avec les centres médico-sociaux, on peut avoir de l'aide à la famille, de l'aide au ménage. Après, ce sont des prestations qui sont remboursées par les assurances maladie, ou alors parfois en fonction des revenus. Il y a des services comme Parents Rescousse de la Croix-Rouge.
Mais ça, c'est payant. Et puis c'est juste pour jumeaux triplés.
Alors non, c'est pas spécifiquement par rapport aux jumeaux. Il y a l'association des parents de jumeaux et plus, mais je suis pas sûre si elle est encore en activité. Elle était un petit peu en suspens. J'espère qu'elle va retrouver des membres et être de nouveau active. Il n'y a pas forcément de choses à ma connaissance spécifique, mais on peut avoir des aides autres. Et puis après, on tricote en gros. On va chercher, et puis en fonction des régions en Suisse romande, il peut y avoir des solutions. Mais cette solidarité entre parents qui ont vécu aussi avec des enfants jumeaux, triplés, etc., sont des super ressources aussi pour anticiper comment s'organiser.
Valentine Rata, Marlise nous dit ça, donc l'aide familiale est se serrer les coudes avec mon mari. Mais justement, on est censé former une équipe, le couple est censé former une équipe, on est plus fort ensemble. Mais justement, le problème est là, on a de la peine à se serrer les coudes, on a de la peine à être une équipe.
Alors oui, on a de la peine parce qu'effectivement, on a moins de... Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un enfant ou des enfants, dans ce cas-là, ça vient vraiment augmenter la charge logistique sur les épaules des parents. Vraiment, c'est du quotidien dont on parle ici. Et avec cette impression qu'effectivement, tout va tourner autour de l'enfant ou des enfants. Et c'est aussi là qu'on a l'occasion, déjà avant, dans la préparation à la parentalité, mais de devenir effectivement cette équipe de coparents, de décider comment on va devoir discuter ensemble des choses, se mettre d'accord, ce qui demande de l'énergie de devenir cette bonne équipe de coparents, mais qui est aussi une ressource énorme pour le soutien émotionnel qu'on peut s'apporter. Donc voilà, même dans les moments où on sent qu'on est un peu tendu avec le partenaire, il ou elle est quand même une source de soutien émotionnel énorme dont il faut profiter quelque part. Être deux ou plusieurs parents, c'est une vraie équipe effectivement qui peut soutenir toute cette charge logistique autour des enfants.
baby clash, ce moment de réadaptation, on va dire ça positivement, quand un enfant vient troubler le couple. Et on va recevoir maintenant un nouveau message vocal reçu de Joël.
Le guichet dont on parle, 0800 108 208. Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Alors moi, je voulais apporter quand même aussi un petit témoignage. Je suis maman d'un petit qui a bientôt un an. Et c'est vrai qu'on s'attend à ce que l'entourage soit toujours très présent. C'est une évidence quand on va avoir un enfant. On se dit bien sûr que l'entourage va être là pour nous aider. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément aussi évident ou qu'en tout cas, l'entourage ne comprend pas les besoins de jeunes parents. Du coup, je pense que c'est important en tant que futur parent d'anticiper et d'en discuter. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Qu'est-ce qu'on attend de sa famille? Et surtout d'avoir une bienveillance envers ces jeunes parents qui vivent des moments qui ne sont pas faciles, qui doivent s'adapter, et de les écouter, de ne pas prendre les choses comme des armes, comme le parent précédent parlait, pour les attaquer ou pour leur demander des choses en retour, mais plutôt comme une force d'entraide et de solidarité de la famille. Pour la question du jour au niveau du couple, c'est vrai que, à contrario, moi j'ai eu beaucoup de chance. On avait beaucoup parlé avec mon conjoint avant l'arrivée de l'enfant, et quand il est arrivé, bien sûr que c'était pas facile. On a eu une adaptation, mais le couple était déjà fort et déjà prêt à se soutenir dans ces moments. Du coup, on n'a pas eu de tension de couple, on a plutôt eu une bienveillance l'un envers l'autre pour s'aider dans ces moments qui sont plus difficiles de la vie et en même temps merveilleux. Voilà, merci pour votre émission.
Merci à vous, Joël, pour ce témoignage. On sent de l'émotion dans la voix, Marie.
Joël qui nous dit avoir pu anticiper et puis en avoir beaucoup parlé avec son compagnon avant l'arrivée d'un enfant, ce qui a permis d'adoucir un peu les conflits. Comment on peut anticiper? De quoi est-ce qu'il faudrait parler avant l'arrivée d'un enfant ou avant même le projet, hein, pour savoir si on va être d'accord, par exemple, typiquement l'éducation? Comment se projeter et avoir cette discussion-là en disant ben, quelles sont les bonnes questions à se poser, Valentine Rata?
Alors, plus on en discute, mieux c'est, ça, de toute façon. Parce qu'on va pouvoir se dire, voilà, quel... On n'a aucun moyen d'anticiper comment l'autre va être en tant que parent. C'est quelque chose auquel, parce que lui-même, nous-mêmes, on ne sait pas. Tant que c'est pas là, c'est très difficile à dire. Mais on peut anticiper un peu, discuter ce qu'on imagine de notre parentalité commune, individuelle. Et je pense que la clé repose aussi dans le fait qu'une fois que c'est là, on doit pouvoir faire preuve de flexibilité et être capable de dire, voilà, on avait dit qu'on allait gérer ça comme ça. Moi, finalement, ça ne me je peux pas, et de faire preuve de cette flexibilité. Et Joël parle de cette bienveillance qu'on peut trouver dans son conjoint ou sa conjointe pour pouvoir justement faire preuve de cette flexibilité-là et pouvoir renégocier les choses qu'on avait décidées ensemble mais que finalement, on n'y arrivera pas. Et quand il y a des divergences, je pense qu'on peut aussi des fois tomber d'accord sur le fait qu'on ne sera pas d'accord.
Il y a cette phrase qui dit... Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. c'est un peu ça, une fois que les enfants sont là, la réalité elle est différente, Lisa Hena.
Oui, effectivement, et puis vous disiez les différences d'éducation, ben voilà comment je me positionne par comment est-ce qu'on va gérer le sommeil de notre bébé, quelle alimentation on a envie de lui donner. Ça va aussi renvoyer à pas mal de en fonction de qui on est, de nos familles, hein. Est-ce que j'ai envie de respecter ce qu'on m'a donné dans mon éducation? Est-ce que je reste dans cette loyauté à ma famille ou finalement est-ce que en couple on décide, ok, ben nous deux, comment est-ce qu'on voit les choses? Qu'est-ce qu'on a envie de s'approprier? Comment on se met d'accord? C'est la richesse de ce partage et puis pouvoir mettre de côté cette loyauté, ces liens aux familles, hein, qui sont un autre sujet assez complexe, hein, pour les couples. couple, et comment on décide de gérer ces liens familiaux, ce mobile, si on imagine que c'est comme ces mobiles qui sont au-dessus de la tête des lits des bébés, avec voilà des symboles qui bougent. Ben voilà, il y aura toute une reconstruction de ces liens familiaux, et décider de oui, ben moi j'ai envie que mon bébé dorme comme ceci, on va lui donner tel rythme, et puis on aura telle dynamique familiale, ça nous appartient et c'est à construire ensemble. Et c'est vraiment, voilà, en parler, se projeter. C'est difficile de complètement se projeter. Effectivement, je rebondis tout à fait sur ce que dit Valentine, sur cette capacité d'adaptation et de flexibilité. C'est OK, on peut pas complètement se préparer, mais on peut vraiment avoir ce sentiment d'être une équipe. On va faire front ensemble, et on va pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre.
On va prendre un nouveau message vocal. Merci beaucoup Lisa Hena et Valentine Rata. Voici celui de Christian au 076 206 12 12.
Oui, bonjour. J'aimerais mettre l'accent sur les solutions concrètes. Effectivement, c'est un couple qui accueille un enfant. La surcharge mentale pour la maman, elle est importante. La surcharge affective, des fois, par rapport au papa aussi est importante, parce qu'en fait on passe dans deux domaines différents. Le premier domaine, c'est notamment avec les couples d'un premier enfant, c'est l'amour romantique et on est tous ensemble et puis on se comprend sans se parler, etc. Puis l'arrivée du premier enfant, le premier enfant, lui, il vous amène à parler de gestion du temps et d'attention, parce que l'attention va être focalisée sur l'enfant, la gestion du temps aussi. Et puis à ce moment-là, si on n'en a pas parlé avant, c'est compliqué. Effectivement, il y a des cours de préparation à l'accouchement, mais je pense qu'il y a des cours de préparation à la relation couple-enfant, couple parental, couple sexuel. Et puis, ça, c'est important d'en parler avant et de se faire aider, d'analyser si besoin, de se dire, effectivement, on va pas compter sur les autres, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Et puis, par exemple, en se disant, moi, mes besoins, ça serait d'avoir, 10 minutes de pause par jour. On va dans des micro-pauses, parce que l'enfant prend beaucoup de place. 10 minutes de pause par jour. Moi, mon besoin, c'est de parler avec toi 10 minutes par jour, si c'est possible quand l'enfant est couché. C'est des micro-choses, mais quand l'enfant est là, il faut viser la qualité du couple, et pas la quantité de la relation. Je pense que ça aide aussi. Personnellement, moi, j'ai eu 3 enfants. Les 3 naissances se sont bien passées, mais les 3 post-naissances se sont mal passées parce qu'on n'avait pas développé cet aspect-là. Donc, effectivement, quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais on a honte de demander. » Oui, on a honte de demander. Mais je pense qu'il faut anticiper. Voilà, et se faire accompagner, c'est vraiment essentiel. Et puis, avoir des difficultés à ce moment-là, avoir de la fatigue, malheureusement ou heureusement, c'est normal, c'est une phase de transition et beaucoup de couples passent à travers. Allez, courage à tous les couples.
Merci beaucoup Christian, qui reprend d'ailleurs pas mal des conseils qu'on donne depuis déjà une petite heure. Valentine Rata, et notamment moi, ce qui me fait réagir, c'est qu'il dit qu'en fait il a eu 3 enfants et qu'à chaque fois ça a été compliqué.
Oui, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, finalement c'est à chaque fois un moment d'adaptation qui est différents, avec des challenges qui sont différents à chaque fois, mais qui viennent mettre effectivement le couple, en tout cas sous une sorte de tension. Ce qu'il dit de très très intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une sorte de dédoublement de la fonction de ce couple, parce que jusqu'à l'arrivée des enfants, on est un couple dit conjugal, romantique, et puis tout d'un coup, on doit aussi devenir un couple de coparents avec une fonction qui est très différente, qui est celle de prendre soin des enfants ensemble. Et ce dédoublement, effectivement, il peut être un peu compliqué, puisque c'est pas les mêmes fonctions, mais que les deux doivent coexister. Donc c'est difficile. Il a parlé aussi du fait d'exprimer ses besoins, et ça, c'est aussi une clé très importante, parce que plus on va communiquer, en fait, la diminution de la communication va venir réduire notre capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc plus on communique, plus on est capable d'exprimer ses besoins, et effectivement, comme il le dit, même des tout petits besoins du quotidien, parce que c'est de nouveau de ça qu'on parle, c'est très important parce que ça favorise l'échange et la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre qu'on n'a pas tout à fait les mêmes agendas en tête dans notre couple, et puis qu'on peut s'adapter l'un à l'autre.
Encore faut-il avoir le temps de communiquer.
Oui.
Lisa Hénin, oui. En tant que sage-femme, est-ce que vous êtes dans les premiers moments de la venue des enfants? Vous rendez attentif ou vous dites, est-ce que vous avez organisé, parce qu'il n'est pas trop tard pour le faire, pour aider justement à ce que ça ne soit pas chaque fois un cauchemar?
Alors, c'est vrai qu'il y a ces cours de préparation à l'accouchement, mais maintenant, on se rend compte combien c'est important d'ouvrir à la préparation à la parentalité. Et puis, il y a des cours qui existent que pour les hommes, qui parfois, ça peut être chouette pour eux de se retrouver entre hommes pour parler de cette nouvelle aventure. Et effectivement, on va les encourager à se questionner. Les sages-femmes qui vont à domicile vont vraiment prendre en compte toute la famille et voir comment ça va aussi au niveau de cette dynamique du couple, pour pouvoir faire équipe et en fait aussi trouver sa place. Je pense que si on peut aussi parler de cette notion de plaisir qu'on a dans cette nouvelle aventure avec le bébé.
Quelle idée de parler. Mais oui, effectivement, ça va faire une heure là qu'on dit tous les points négatifs, mais il y a quand même des bonnes choses. Merci de le souligner quand même.
Disons que oui, et je pense que c'est de trouver sa place et en fait aussi, ça dépendra aussi de l'enfant qu'on a. Il y a des besoins, il y a des bébés qui ont des besoins extrêmement intenses de soins et ça va aussi influencer cette dynamique de couple et de comment on est parents ensemble.
Dernière ligne droite de ce guichet.
Tout à fait, avec différents conseils, témoignages reçus par message. Aurélie nous dit « Maman de deux garçons de 4 et 6 ans, ce sujet me parle beaucoup. Un conseil que j'avais entendu et que j'ai gardé en tête, qu'il serait sympa de partager, ne pas prendre de grandes décisions, type séparation, tant qu'on n'a pas retrouvé de vraies nuits de sommeil. Je trouve ce conseil absolument excellent. »
C'est très juste.
c'est très juste. On revient à l'histoire de la fatigue. Mm-hmm. On en a parlé au début de l'émission. Sinon, Floriane de Genève, qui nous écrit « Pour mettre le couple à l'épreuve de la réalité et de sa capacité parentale, garder les enfants de ses amis et de sa famille permet de se confronter à la vie avec un petit, de voir si l'autre est prêt, déjà seulement sur un petit week-end, faire le test du relais et de la solidarité. Et c'est une boucle vertueuse, puisque l'on donne un coup de main à d'autres parents qui nous rendront certainement l'appareil le moment venu. » C'est un petit peu intéressé. Non, mais cette histoire de garder peut-être les enfants des autres pour se rendre compte un peu de ce qui peut nous attendre, c'est une bonne chose à suivre, Lisa Hénin.
Ça peut être intéressant, mais je pense que quand c'est pas son propre enfant, c'est comme, il y a quand même un autre facteur, il y a
le bouleversement. Ça risque d'être trop idéal et oui, au contraire.
C'est ça. Ah oui. Quand on sait qu'on peut le rendre, c'est quand même, voilà. Mais effectivement, en tout cas, ça nous permet de voir c'est quoi la réalité, le quotidien, avec un tout petit. Mais je pense que là, il y aura plus la notion de plaisir que de vraie réalité.
Ce qui est bien aussi, cela dit. 076-206-1212, on écoute encore un vocal, c'est celui de Karine que voici.
Oui, bonjour, Karine. Moi, je voulais juste apporter un témoignage ou une remarque. Bon, j'ai 55 ans, donc je suis un peu d'une autre génération, on va dire, mais je trouve que la pression sociale, vous en parlez, que les couples se mettent pour être parents, les réseaux sociaux aussi, enfin, on nous présente... parentalité parfaite. Et comme tout le monde est sur les réseaux, chacun se met la pression. Et ça, je trouve terrible, en fait. Tout ce qui est réseau, ça a influencé d'autres parties de notre vie, mais tout le monde se met une pression pour être un parent parfait, alors que ce n'est pas possible. On ne peut pas être un parent parfait. Il faut accepter dès le départ qu'on ne sera pas parfait, qu'on va faire des erreurs et que ça ne sera pas évident. Donc, c'était juste ma remarque. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression et d'écouter ce qui se dit sur les réseaux, d'être trop influencé. Il faut écouter aussi son bon sens et son instinct. Voilà, merci, bonne journée.
Merci Karine, c'est vrai que la pression, les injonctions, Valentine Rata, ça peut être dévastateur.
Oui, surtout que c'est vrai qu'on se projette dans une parentalité qui est celle qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Et on va forcément construire des attentes du type de parents, de mamans, de papas qu'on sera et qui sont souvent déçus, puisqu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, être un parent parfait, ça n'existe pas. S'occuper d'un bébé, c'est très souvent un apprentissage par essai-erreur, finalement. Et donc, ça va participer à ces attentes qui sont déçues, à ce décalage entre ce qu'on projetait de notre parentalité et ce qu'il est possible ou ce qui nous est possible de faire. et qui peut participer à une certaine forme de culpabilité aussi, de pas faire aussi bien que ce qu'on voit.
Ou de ce qui est montré.
De ce qui est montré, voilà, effectivement, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui n'est que ce qu'on veut bien nous montrer, finalement.
Il faudrait se couper un maximum de ça. C'est quelque chose que vous voyez, Lisa Hénin, cette problématique entre ce qui est montré, hein, une sorte d'idéal, et puis la réalité, et puis qu'il y a un fossé entre les deux.
Oui, c'est sûr, surtout aussi beaucoup autour de l'accouchement.
Donc, c'est le plus beau moment de ma vie.
Oui, aussi, ou, effectivement. Mais disons que, je trouve que les jeunes mamans aujourd'hui, elles prennent quand même de la distance par rapport à ça. Ce qui est des fois un peu plus dur, c'est que parfois, quand elles parlent entre amis, on va, les copines vont leur raconter toutes les histoires horribles autour de leurs accouchements. Ça, je trouve quand même plus délétère que les réseaux sociaux, où elles arrivent quand même à prendre un bout de distance sur ce qui est véhiculé la plupart du temps.
Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a quelque chose à dire là-dessus et on doit vraiment faire du tri avec tout ça.
Oui, clairement. Il faut vraiment faire du tri. Et puis, on a la chance quand même d'avoir beaucoup de professionnels très compétents qui peuvent nous accompagner au fil d'une grossesse. De ces premières années avec l'enfant. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir vraiment mettre son énergie avec les professionnels, choisir les professionnels qui nous entourent aussi.
Ou les proches. Un dernier témoignage peut-être. Suivant où vous habitez, l'arrivée d'un bébé peut provoquer un isolement incroyable pour la maman, surtout si le papa part travailler tous les jours. À ce moment-là, les amis, les proches sont très très importants. Arriver avec des repas, hein, comme vous l'avez dit, participer parfois au ménage pour simplement amener une présence, c'est là que les amis sont vraiment importants. C'était un message, voilà, qui résume aussi assez l'aide qu'on peut apporter, un message de Pipo.
C'est vrai, Valentine Rata, les amis. Alors ça, il faut les avoir. C'est aussi des liens qu'il faut avoir tissés avant. Il faut, parce qu'on a entendu une maman qui a suivi son mari sur Genève, qui s'est retrouvée aussi un peu seule. Compter là-dessus aussi, c'est important de garder ce lien amical.
Oui, on l'a dit tout à l'heure, le réseau social est un vrai facteur protecteur en fait pour les parents. Et ceux qui se retrouvent effectivement dans une forme d'isolement vont avoir plus de mal à s'adapter, parce que finalement, c'est des ressources qu'on va trouver auprès des autres et qui sont fondamentales.
Merci beaucoup Valentine Rata, chercheuse au Centre d'études de la famille au CHUV et collaboratrice scientifique à l'Université de Genève, et Lisa Hénin, sage-femme, conseillère pour le Conseil en périnatalité de Profa, pour vos nombreux et précieux conseils durant ce guichet. Et merci à toutes les personnes qui ont témoigné et posé des questions. Vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Et on remercie nos standardistes du jour, Mathilde Pelletier, Clémence Raymond et Audrey Zano, et Bastien Testori qui était en régie ce matin. Guichet demain sur l'achat, de la revente et d'occasion.
On en parle, Yves Alain Cornu.